Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Dans ce magazine des sports de ce samedi 24 octobre, on commence avec le sport australien, avec l'apothéose de la saison 2020 pour les codes sportifs les plus populaires du pays. Ceci avec deux grandes finales ce week-end, à commencer par la grande finale AFL cet après-midi, qui opposera les Geelong Cats aux Richmond Tigers, suivi demain, dimanche, de la grande finale Rugby League, qui opposera les Melbourne Storms aux Penrith Panthers. Au footy, hier, Geelong et Richmond se sont livrés à leur dernière séance d'entraînement avant le clash décisif de cet après-midi. Dans cette rencontre historique de ce samedi 24 octobre, Richmond cherchera à remporter une troisième couronne en seulement 4 ans. L'entraîneur de Richmond, Damien Hardick, a dit que son équipe est prête à inscrire un nouveau record dans son histoire.
I think from an overall perspective, I think it's going to be a great game of footy. You know, we're two pretty good sides that have been playing a great band of footy for a long period of time, and I'm looking forward to the challenge. I think it's about time we played off in the grand final, so I'm looking forward to it.
Chris Scott, entraîneur de Geelong, lui signale que son équipe est prête à relever le défi malgré le fait que les Cats n'ont pas remporté de titre depuis 9 ans.
And we've got a degree of confidence. The execution piece is so much harder than the planning. I think sort of working out what to do is pretty easy. Actually being able to execute it against the best in a pressurized situation is much, much harder. I think the great teams in history have been pretty transparent. It's pretty easy to see what they do well. It's just very, very hard to stop it.
Il faut rappeler que la finale AFL 2020 est historique à tous les égards, car pour la première fois de l'histoire du footy, une grande finale AFL ne se joue pas à Melbourne pour cause de pandémie de coronavirus. Et la pandémie de COVID-19 continue de perturber considérablement le calendrier sportif à travers le monde. En France, jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'élargissement du couvre-feu à 38 nouveaux départements et un territoire d'outre-mer, la Polynésie, afin de lutter contre la propagation du COVID-19. Une mesure qui a un impact direct sur la pratique sportive, mais aussi sur le déroulement des compétitions et plus particulièrement sur les matchs en nocturne. Ceci dit, voyons les résultats du football de ces derniers jours en Hexagone. Bien, en Ligue Europa, Lille s'est imposé 4-1 face au Sparta Prague. Lille devient de ce fait le premier club français à s'imposer en Coupe d'Europe cette saison. Et en Ligue 1, 8e journée du championnat, Angers s'est imposé tôt ce matin contre Rennes 2-1. Autre match en Ligue 1 ce samedi, Lorient joue contre l'Olympique de Marseille, le PSG reçoit Dijon et Lens reçoit Nantes. Au championnat anglais, Premier League, 6e journée du championnat, en match avancé, Leeds s'est imposé tôt ce matin 3-0 contre Aston Villa. Et une rencontre au tableau ce samedi 24, la rencontre entre Manchester United contre Chelsea. Un match très attendu avec le retour salvateur du gardien Edouard Mendy dans les cages de Chelsea. Rémi Ngono de Radio Foot International commente l'évolution de ce gardien talentueux, porte-drapeau des gardiens d'origine africaine évoluant en Europe.
N'oubliez pas Bel Joseph Antoine et surtout Thomas Nkono, et qui d'ailleurs a inspiré les bouffons et consorts, donc l'araignée noire. Et n'oubliez pas les grandes prestations d'Onana, qui d'ailleurs devait aller dans ce Chelsea-là. Onana, tout le monde le voulait avec les prestations qu'il a eu à faire au niveau de l'Ajax et tout, ou même le jeune Ondoa qui n'a pas eu beaucoup de chance à rester beaucoup au banc de la réserve du Barça. Donc on se dit quand même que si aujourd'hui il a eu cette évolution-là et il a percé d'un seul coup comme ça, c'est une très bonne chose pour aussi les gardiens africains, parce que d'ailleurs, il pouvait bien jouer en Première Ligue ou n'importe où, mais on ne s'en occupait pas beaucoup parce que les gardiens africains sont sous-cotés. C'est ça, ça c'est la réalité. Mais aujourd'hui, avec lui, certainement, il est parti dans le championnat le plus cher et le plus visible, le plus coté. Certainement, il va permettre qu'on puisse encore regarder les derniers remparts de l'Afrique qui sont certainement à gauche et à droite et qu'on ne découvre pas encore parce qu'ils sont encore dans l'obscurité. Mais comme le dit un proverbe africain, le soleil n'oublie jamais de briller dans un petit village.
Au football toujours, mais sur le continent africain, la demi-finale retour de la Ligue des champions africaines entre le Zamalek et le Raja Casablanca n'aura pas lieu comme prévu ce samedi 24 octobre au Caire. En effet, 8 cas positifs au coronavirus ont été détectés au sein du club casablancais. Son effectif est désormais à l'isolement jusqu'au 27 octobre avec l'interdiction de quitter le territoire marocain. La commission des compétitions relevant de la Confédération africaine de football a décidé de reporter la rencontre au 1er novembre prochain. Et toujours au football, mais cette fois-ci pas sur la pelouse, et bien Pelé, l'un des plus grand joueur de football de tous les temps, fêté hier, vendredi 23 octobre, ses 80 ans. Très actif sur les réseaux sociaux, Pelé, élu athlète du siècle par le Comité international olympique, ne manque pas de rappeler certains de ses exploits, comme son premier but avec le club de Santos à l'âge de 15 ans, ou la première Coupe du Monde qu'il a remportée au Brésil en 1958 grâce à une action mémorable. Hier, sur Radio Foot International, Alejandro Valente est revenu sur les exploits de Pelé, celui-là même, dont les performances ont ravi des millions de téléspectateurs.
Je pense que Pelé a fait entrer le football dans la modernité parce qu'il est apparu au moment où la télévision arrivait dans les foyers. En 58, et du coup, c'est les premiers footballeurs que le monde a pu découvrir. On n'avait pas forcément tous les matchs en direct, c'était pas comme aujourd'hui, mais on arrivait quand même à en voir beaucoup. Et je pense que c'est ça qui a marqué beaucoup les esprits, c'est de pouvoir finalement découvrir un footballeur partout dans le monde, alors que jusque-là, les grands noms du football et rester quand même cantonné au spectacle qu'il pouvait offrir devant le public des stades.
Et un mot de cyclisme, le grimpeur australien Ben O'Connor, vainqueur mercredi 21 octobre de la 17e étape du Giro, portera la saison prochaine le maillot d'AG2R La Mondiale, une équipe française qui aura le soutien du constructeur automobile Citroën à partir de l'an prochain. L'Australien a réalisé 3 journées tonitruantes dans le Giro, 2e mardi de l'étape de San Daniele del Friuli. Il a gagné l'étape suivante à Madonna di Campiglio et a longtemps figuré en tête de la course jeudi avant d'être rejoint et débordé à 8 km du sommet du Stelvio par un autre coureur australien, Jai Hindley de l'équipe Sunweb. Hier, la 19e étape a été remportée par le Tchèque Josef Černý. Il faut signaler que le Néerlandais Wilco Kelderman est toujours maillot rose à 2 jours de l'arrivée finale à Milan. Et en Formule 1, à la veille du Grand Prix du Portugal qui se dispute ce week-end, l'écurie américaine Haas se sépare de ses 2 pilotes, le Danois Kevin Magnussen et le Français Romain Grosjean. Il faut signaler que si Romain Grosjean continue de rouler jusqu'à la fin de la saison, eh bien, il aura dépassé les 176 Grands Prix disputés par Jacques Lafitte et il rentrera dans l'histoire dans le top 3 des pilotes français ayant connu la plus grande carrière en Formule 1 derrière Jean Alési, 201 courses et Alain Prost, 199 Grands Prix. C'est tout pour l'actualité sportive de ce week-end. Après la pause, la suite du programme.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.